Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonjour Stéphane. Imaginez, vous invitez des amis à dîner et vous leur servez en entrée des Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. En plat, un poulet de Bresse, en fromage, du Comté et du Saint-Nectaire, en dessert, des clémentines corses pour équilibrer un peu, et tout ça servi avec un bon petit vin de Bordeaux. Et allez, parce que le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder, et surtout parce que vous les aimez beaucoup et qu'ils ne sont pas trop nombreux autour de votre table, vous finissez par leur verser quelques gouttes de votre meilleur whisky écossais pour faciliter la digestion, bien sûr. Oui, ces produits coûtent cher, mais vous vous dites que vous payez le juste prix pour leur qualité, leur savoir-faire longuement acquis, pour les femmes et les hommes qu'ils font vivre, pour leur tradition, bref, pour leur terroir. C'est sympa les terroirs. À entendre ces mots, on imagine des paysages bucoliques, vierges de trop de modernité. Une alliance entre les hommes et la nature dans un équilibre établi depuis des siècles, des techniques de production si éprouvées par le temps où les mêmes gestes sont transmis d'une génération à l'autre, chacune améliorant légèrement ceux de ses pairs, tout en respectant religieusement ce que ceux-ci lui ont légué. Bref, une qualité garantie par une sagesse ancestrale et le sentiment d'y contribuer par votre porte-monnaie, un genre d'éthique de la tradition. Ce que vous voyez sur votre table raconte une histoire, narrée par tous ces produits qui ont le goût de l'authentique. Bon, vous commencez à me connaître, si je vous en parle, c'est que je viens troubler un peu ce joli conte dont la première de couverture se trouve sur leur emballage. Déjà, en quoi est-ce mieux? C'est vrai, après tout, en quoi, parce que ce serait ancien, ce serait meilleur? Pour ce qui est du goût, on peut se dire que si un produit a passé l'épreuve du temps, c'est qu'il continue à plaire, que des générations de producteurs ont déjà travaillé pour qu'il soit le meilleur possible, un genre de R&D sur le temps long. Mais un produit développé récemment peut tout à fait répondre à nos goûts actuels, non? Aussi, en quoi serait-il meilleur en termes d'impact écologique? Si on peut se dire que si un produit dure dans le temps, alors c'est qu'un certain équilibre entre la terre et les hommes a été trouvé, aucune production n'est épargnée par le productivisme. Je vous en parlais dans ma toute première chronique, l'offre en Comté est si grande que la pollution qu'elle engendre détruit la biodiversité des cours d'eau dans son aire de production. Pour rappel, sa production est passée de 44 000 tonnes par an en 2000 à près de 68 000 tonnes en 2018, augmentant par la même occasion ses rejets azotés. Pourtant, le début de la production de ce fromage date au moins du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment ancienne pour étudier l'évolution de son impact écologique sur son milieu. Et on remarque depuis une vingtaine d'années à peine son impact si négatif sur son fameux terroir. C'est donc que si celle-ci était soutenable par le passé, elle ne l'est plus. Mais la faute à qui? À une demande toujours plus forte des consommateurs qui poussent les agriculteurs et fromageries à augmenter leur offre, ou bien au fait qu'ils ont eux-mêmes contribué à cette hausse de la demande par un marketing bien ciblé? Et oui, ceux qui vous vendent leurs terroirs ancestraux sont pleinement dans la même logique productiviste que n'importe quelle industrie, toujours à la recherche de plus de profits. Rien de vraiment choquant en vérité, puisqu'il faut bien s'adapter aux règles de l'économie actuelle si on ne veut pas déposer le bilan. Cependant, nous vendre un terroir alors qu'on l'abîme en le consommant, personnellement, ça me travaille les méninges quand je déambule au supermarché. Mais il y a autre chose qui me chiffonne. Ce discours d'une tradition gravée dans le marbre, immuable, qu'il serait nécessairement bon de perpétrer. Déjà, aucune tradition n'est à l'abri d'une remise en question à la lumière de notre pensée actuelle. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il n'en faut pas, mais qu'il nous faut déterminer lesquelles nous voulons garder et lesquelles méritent d'être mentionnées au passé. Aussi, à partir de quand un geste, une technique, une culture devient une tradition? Pour beaucoup d'entre elles, il suffit de remonter au XIXe siècle pour les voir s'établir et codifier. Pour les plus anciens qui nous écoutent, est-ce que remonter à la génération de vos grands-parents en fait quelque chose d'éternel? En fait, un terroir est une essentialisation d'un territoire. On enferme celui-ci dans une image pas si ancienne, un storytelling produit par un marketing moderne, destiné à ceux qui le consomment et non à ceux qui y vivent, mais qui doivent quand même s'y plier. On y retrouve la même logique que dans cette phrase du maréchal Pétain. La Terre ne ment pas. Personnellement, je ne prêterai pas à la Terre la capacité de mentir ou non, mais aux hommes de lui faire dire ce qu'ils veulent, oui. En l'occurrence, un traditionnalisme marchand qui joue sur la nostalgie d'un passé fantasmé qui tend à transformer les cultures anciennes en folklore. Dès lors, posons-nous la question. Une identité a-t-elle besoin d'un terroir?
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.